Bowie, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1. Précisément midi, j'espère que Denis Gravel est en forme aujourd'hui parce qu'il va avoir une multitude de questions pendant le Pit Stop.
En forme?
CV qui est là.
En forme, non, mais en mesure de répondre à toutes vos questions, par exemple.
Hey, dis-moi pas ça, on est encore ici dans 3 heures.
À matin, je jasais avec Maude Bouchard, qui est neuropsychologue, qui est spécialisée en sommeil.
Oui.
Docteur Maude Bouchard, qui est franchement intéressante. On a
Absolument.
Parlé de toutes les facettes du sommeil. Puis elle a dit que la meilleure façon pour bien contrôler son sommeil, c'est d'avoir toujours la même routine.
Mm-hmm.
Mes blondes m'ont toujours dit « t'es le pire chum de la Terre » parce que j'étais un gars très routinier dans la vie. En fait, je suis une bonne victime pour un tueur à gages parce que je fais toujours la même chose à tous les jours.
Il te regarde aller une journée puis il a
c'est
tout
fait.
Compris ton modus operandi.
C'est mon 365 jours. Il a dit « si tu te couches toujours à l'heure, à la même heure, puis tu te lèves toujours à la même heure, autant dans la semaine que la fin de semaine, tu vas être la personne la plus top shape possible. »
Je suis d'accord avec ça. Puis de façon générale, quand tu es capable de conserver ce beat-là pendant plusieurs mois, ça devient tout devient tellement plus facile. Un
ouais.
coup, t'as pogné ton beat.
C'est ça.
Mais la vie étant ce qu'elle est, c'est pas toujours
enfants,
possible. Hein? Ouais,
mais je trouvais ça le fun la fin de semaine quand mes gars se levaient, parce qu'on avait des pratiques comme à 6h30 le matin ou 7h. Fait que j'étais déjà levé. Mais là, mes gars se lèvent la fin de semaine 9h, 10h. Fait que moi, ça fait 4h, je suis debout. Je suis rendu à mon 12e café.
Est-ce que vous avez parlé avec cette experte-là du fait que, mettons, si moi, je me couche à 9 en me disant, hey, j'ai ouais. une grosse nuit de sommeil, ça va être le fun. Je me nuis plus parce que peut-être que mon
si t'es pas dans ta zone, si t'es pas dans ta zone, tu te nuis, tu dors pas, tu vas te réveiller plus tôt ou tu vas avoir de la misère à t'endormir.
Puis, même si, mettons, j'essaie d'instaurer que de 9h le soir à 6h le lendemain matin, ça va être ça, mes heures de sommeil, ça se peut que pour mon corps, il faut que je me couche à 11h.
Ouais. Je sais pas, ça doit dépendre de l'âge aussi. Là. Moi, c'est au mois de septembre, j'ai eu une grosse grippe, puis je m'étais couché à 8h le soir, je me suis dit, hey, tu sais, je vais avoir 4 heures de sommeil. À minuit, là, je vais commencer mon vrai sommeil jusqu'à 6 heures du matin. Puis je me suis réveillé à 2 heures, les yeux bien ronds. Je suis capable de m'endormir.
Écoute, la fois que j'ai été le plus mêlé dans ma vie, c'est l'été que j'ai travaillé dans une usine au Saguenay à Saint-Fulgence parce qu'une semaine, tu étais sur le chiffre de jour, puis l'autre semaine, tu étais sur le chiffre de nuit.
Hey.
Mêlé comme un jeu de cartes, là, tu ne sais plus quel jour on est, ouais. tu te réveilles, ça prend quasiment une heure à être capable de te situer. OK. On est mardi après-midi, je travaillais de nuit, faut que je me lève pour déjeuner, il est 16 heures. Tu sais, c'est un, pour vrai, là, bravo à ceux qui sont capables d'adopter un style de vie comme celui-là. Moi, ça a été horrible. J'ai préféré me lever pendant 20 ans à la même heure, ben de bonne heure pour faire de la radio le matin, que de travailler un été d'une usine ouais. où tu changeais de
c'est
chiffre.
Ça. Tu voulais avoir ta routine. Puis hier, je parlais avec des policiers de la Sûreté du Québec, puis là, je leur demandais si ça avait changé. Leur corps de travail,
ouais.
parce que eux autres, c'est des 12 heures.
Fait
que, mais eux autres, ils font des nuits aussi. Là.
Mm-hmm.
Fait que là, c'est 12 heures de jour, 12 heures de soir et de nuit, 12 heures de jour, 12 heures de soir et de nuit. Ils doivent être mêlés. Puis, des fois, c'est comme 2 semaines, 3 semaines de ce que je comprenais. Mais normalement, pour moi, que tes enfants, s'ils sont jeunes, eux autres,
ça, c'est l'autre affaire,
que le père ait passé la nuit debout à courir après un méchant, ils s'en sacrent.
Ben, <oui. rire>
ils veulent pas que tu dormes.
Il y a assurément des semaines que tu es moins disponible que d'autres.
Que ce soit un party de la veille ou un chiffre de job important de la veille.
Ah non, eux autres sont top shape.
J'arrête pas de me faire dire aussi que les enfants se lèvent toujours trop tôt la fin de semaine. Puis la semaine, ils dorment quand il faudrait les lever pour l'école.
Ouais, ça, c'est une affaire qu'on s'explique
ça?
Mal.
Ouais.
Oui, oui,
oui. Oh, oui. Le samedi, ils sont faciles à lever. Le lundi, c'est pas mal plus tough.
Exact. Donc, une multitude de questions qu'on a posées, Denis, aujourd'hui. Pascal a trouvé une question hyper intelligente aux auditeurs, puis intéressante. 418-971-1021, 418-971, elle a dit « Quel événement qui vous a marqué au courant de votre vie, que vous allez vous souvenir jusqu'à la fin de vos jours, mais plus spécifiquement au niveau de l'enfance, c'est ça?
Oui, vraiment dans ton enfance. Là,
la première fois qu'on est confronté, mettons, à un événement d'actualité.
Bien, mettons,
ça
dans
peut
mon
être
cas, ouais. c'est sûr que j'ai réfléchi à « C'est-tu le 11 septembre? » J'étais en première année,
mm-hmm.
J'ai compris un peu la puissance de l'actualité, j'ai compris que dans le monde, c'était beaucoup plus grand que je pensais, puis qu'il y avait des méchants, puis que Osama Ben Laden pouvait se cacher à l'ange gardien. Et là, j'ai posé cette question-là. C'est quoi le premier fait d'actualité qui s'est intégré dans votre mémoire involontaire? Parce que vous n'avez pas choisi ouais. de retenir l'information.
Moi,
mais ça vous a tellement marqué que c'est dans votre mémoire.
Moi, c'est le tremblement de terre de 1988. je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans un restaurant aux Galeries de la Capitale. Je pensais que les montagnes russes avaient pris une débarque. Puis je voyais les gens, tu sais, j'étais jeune, là, puis je voyais les gens courir dans le hall, puis les femmes fermer les boutiques, puis être bien stressées. Puis il y avait une serveuse qui était là à l'époque, puis elle a dit, inquiétez-vous pas, c'est un tremblement de terre. Laissez les gens paniquer. On va finir le service, puis après ça, vous allez pouvoir sortir en sécurité. Puis, tu sais, là, je suis dans la quarantaine, je me souviens encore de cette dame-là, sa voix.
Puis elle n'a pas de réseaux sociaux à ce moment-là pour s'assurer que c'est ce qu'elle est en train de vivre.
C'est-tu où j'étais, moi? Pour le tremblement de terre, on n'était pas loin de l'épicentre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C'est vrai, bien oui. Ouais.
J'étais assis à la glace.
Tu t'en es pas rendu compte?
On faisait la pratique. Non, on s'en est rendu compte parce que les lumières ont fermé. Ça a été la première affaire qui est arrivée, puis on sentait ça shaker, là. Quand on est reparti de là, avec les lumières de sûreté qui n'étaient pas très nombreuses, moi, j'avais 3 patins dans ma poche. Il manquait mon casque, il manquait un coude. Je veux dire, tout était... on était partis en panique. Là, tout était mêlé dans les poches. Là, ça a pris
3 patins dans la poche.
Ça a pris 3 games de mêler l'équipement de tout le monde. Oui. Là, t'sais. Mais tabarnouche. Oui, ça m'a marqué beaucoup. Mais moi, c'est drôle. J'associe ça avec... Parce que moi, dans ma famille, c'était pas des grands regardeux d'actualité, tu sais. Mais la première fois que j'ai vu ma mère pleurer en regardant les nouvelles, c'est l'explosion de la navette Challenger. Puis ça, c'est la première fois que ça m'a marqué. T'sais, maman était, je me souviens, était bien émotive en regardant ça. Puis là, elle m'a raconté l'histoire de cette professeure d'école qui était montée là, puis tout ça, puis ses élèves.
C'est en quelle année, ça?
L'explosion de la navette Challenger, j'ai 85 dans la tête.
Ça, j'ai 84 en tête.
C'est dans ces années-là.
L'explosion
de
Challenger, c'est 86.
86, OK, oui. Ma dernière année à Chicoutimi-Nord.
28 janvier 1986. Puis ce qui nous avait marqué, c'est
j'avais 8 ans.
C'est le fait qu'il y avait une enseignante qui était à l'intérieur du Challenger.
Exact.
Ses élèves étaient sur place pour regarder leur prof montant en haut.
Puis ont vu la navette exploser.
Puis ont vu ça exploser.
Oui. Ouais. Le deuxième événement d'actualité, j'étais au centre d'achat dans un kiosque à magazine, là, ça n'existe plus à cette heure ou à peu près plus. Puis je vois un gars qui est l'employé de la place qui devient bien, bien émotif. Puis je comprends pas pourquoi, parce qu'il est tout seul. Et là, je me mets à écouter la radio. Puis il venait d'annoncer que Jerry Boulet était mort. Ça, c'est en 90. Puis je m'en souviens parce que ça a frappé mon imaginaire de voir que tu pouvais déclencher autant d'émotions en annonçant une nouvelle à la radio, tu sais. Puis ça, c'est, je pense, avec du recul, une étape importante du fait que je fais de la radio aujourd'hui, de voir l'impact que ça avait, ces gens, live d'un centre d'achat. Là.
De couvrir ça, d'annoncer, d'avoir le doigté pour bien le faire.
Puis le tremblement de terre, ça a été la même chose. C'est la radio qui avait pris le relais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y a des gens même qui étaient partis en panique d'un studio de radio. Ils avaient quitté les ondes parce que là, ils avaient peur que ça se termine, puis tout ça, puis qu'il y ait une deuxième secousse. Puis tu avais des gens qui avaient tout simplement ouvert les lignes puis qui racontaient les histoires. Moi, de voir la place que prenait la radio dès que ça bouge autour de nous autres, littéralement avec un tremblement de terre, c'est quelque chose, moi, qui m'avait intrigué puis qui m'avait fasciné jeune. Puis ça fait partie des événements qui m'ont marqué.
Dans la mort de Jerry Boulet aussi, c'est de voir des gens qui ont de la peine sans connaître l'homme à part pour son œuvre. Puis la mort de Lady Di sort beaucoup aussi au 88-971-1021 comme étant le premier événement d'actualité qui les a marqués.
Ça m'a fait ça pour le chanteur des Cowboys Fringants que je connaissais pas, moi, Carl. Je l'avais vu évoluer à Lac-Mégantic pour une première fois, puis j'étais là, « Wow, il est donc ben bon! » Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui écoutait régulièrement toutes les tunes des Cowboys Fringants. J'en connaissais 2-3. Puis j'avais eu une certaine tristesse. Une qui était embarquée dans le club des 27. Oui. J'étais déjà plus vieux à l'époque, là. Mais ça m'avait marqué parce que là, c'est là où je m'étais rendu que la vie est fragile, même si t'as 20 ans. C'est Marie-Soleil Touga.
Ah, mon Dieu, oui!
27 ans.
Aïe, aïe, aïe. Ça a sorti beaucoup aussi.
Ouais. C'est un enfant de la télé, Marie-Soleil Touga. T'as grandi en le regardant à la télé.
T'as trippé dessus, je pensais que c'était ta
Non, c'était pas mon genre, moi.
Non, mais beaucoup de petits gars.
Le genre de bain du monde, oui, effectivement, là, de ce que je me souviens. Mais tu sais, quand ça dépasse l'actualité, souvent, c'est les premières fois que ça vient nous chercher, tu sais. Parce que quand on est jeune, je pense pas qu'on soit très nombreux à être fascinés d'actualité ou de politique. Mais quand tu vois que ça dépasse le spectre de la politique, puis le décès de Marie-Soleil Touga, c'était ça, c'était un électrochoc. Tout le monde est devenu hyper émotif, ouais. Même des gens qui faisaient rien que la regarder à TV.
Ben, l'événement d'hier, là, qu'il n'y ait pas eu nécessairement beaucoup de témoins, je l'avais d'en avoir parlé, je pense, dans une petite ville comme Sainte-Marie, on va avoir marqué des jeunes qui ont eu à jaser avec les professeurs.
Ah, mais les gars vont s'en souvenir toute
c'est
leur
sûr.
Vie.
C'est sûr. Polytechnique est énormément sorti par texto, la crise d'Oka est sortie, le
la
déluge du lac Saint-Jean énormément ben oui. sorti. Des gens de mon époque, je pense, avec le 11 septembre 2001, juste parce que là, on parle des événements qui vous ont marqué jeune, un des premiers événements.
La crise d'Oka avec le soldat Cloutier puis lasagne.
Lasagne. quelque chose qui est juste un petit peu avant moi, mais qui a marqué beaucoup de monde, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, il y a des gens qui nous textent puis qui nous disent « Moi, je me souviens, j'étais à telle place, mon père était en larmes. » Le décès de Gilles Villeneuve. Au début des années 80, ça a marqué beaucoup, beaucoup de monde. Ça m'avait surpris même de voir à quel point c'était, c'était évocateur puis émotif pour bien des gens.
Tragédie des éboulements, après ça...
L'autobus.
Ben,
82,
Gilles
Villeneuve.
82.
Gary de la Capitale, il y en a qui se souvient aussi puis qui était là-bas lors du tremblement de terre, Yannick. Peut-être que c'était ton voisin du côté de la soupe aux légumes au restaurant où tu mangeais. Là,
mais... Lui, il me disait qu'il était au deuxième étage. Moi, je me souviens que j'étais au premier. C'est bizarre, hein? On était dans la même place. Puis plusieurs années plus tard, je parle à la radio puis il était là, lui aussi, à la même place que moi.
Ça me fascine, ça. J'aimerais ça. Mon cerveau va mal. Oh, j'aurais pas dû dire. Je vais finir ma phrase, là. Mais des fois, mon cerveau se dit j'aimerais ça comptabiliser le nombre de fois que j'ai croisé quelqu'un que je connais pas. Mettons, je te connais pas. Puis là, dans ma vie, il y a un petit chiffre en haut de ta tête. Je t'ai croisé 45 fois, mais jamais on s'est parlé, jamais on... Tu comprends-tu ce que je veux dire?
Ouais.
Je sais, c'est... Je m'excuse, là. Je passe à autre chose. Il y a quelqu'un qui...
Ça va?
Très bien! Tu voudrais pas savoir combien de fois t'as fait le parc des Laurentides? Mettons que tu aurais un ordinateur avec des données sur ta vie.
Non.
Moi non plus. En fait, j'aimerais
c'est
ça...
C'est un problème!
Le seul chiffre que je voudrais avoir, c'est le nombre de fois que j'ai croisé du monde que je connais puis que j'ai pas reconnu. Ça doit être un chiffre assez
bon,
impressionnant.
Tu voudrais quand même...
Le nombre de fois où t'as fait l'amour?
J'aimerais ça, savoir.
Le nombre de fois où tu t'es fait l'amour?
c'est
des chiffres, le fun.
Les images qu'ils créent, là.
Ben ça, c'est facile. Tu comptes le nombre de jours d'une année puis tu fais x2.
Ah oui!
Pour Maxime Larouche? Ah, OK. Le verglas. Quelqu'un qui se passe...
T'avais-tu vu dans l'actualité le gars qui était mort de ça?
De?
Le gars qui avait contribué à la science, je pense que c'était 27 fois.
Par jour?
Il est mort. Il l'a fait 27 fois en ligne, puis il est décédé.
Il est mort au bout de son sperme?
Oui!
Non.
C'est spécial.
On me trouve bizarre après.
Ah ben ça, c'est le bout.
C'est toi qui...
Quelqu'un qui dit la fusillade aux galeries de la capitale.
C'est 42 fois, Denis.
42 fois?
Ouais, 42 fois journée. D'affilée. Le jeune homme avait 16 ans. C'est arrivé en 2019.
Puis il est décédé à cause de ça?
Oui. Ça veut dire que tu peux plus que deux fois par jour.
Je t'encourage, Yannick.
Moi, j'ai vraiment pas le temps.
Fusillade aux galeries de la capitale, les gars, ça vous dit quelque chose?
Oui, c'est, c'était un truc comme Garda. Là. C'était trois hommes qui étaient en bas avec des sacs d'argent. Puis il y a des individus qui sont arrivés. Puis
94.
Ils ont ouvert le feu au travers de toute la foule qui était là. Okay. Moi, je me souviens très bien de ça.
OK. Quand les Américains ont déclaré la guerre en Irak en 90, j'étais jeune et je pensais qu'on allait tous être en guerre.
Ouais. Puis si je ne me trompe pas, la seule personne qui a réussi à être arrêtée, elle a été arrêtée plus tard. Elle a demandé à sortir de prison dans les derniers mois, les dernières années. Puis elle n'avait jamais révélé qui étaient ses complices. Puis on n'a jamais retrouvé l'argent.
Ouais.
Moi, c'est quand...
J'ai McIntyre en tête. Là.
C'est Maurice McIntyre, l'auteur de la fusillade qui a fauché la vie de l'agent de sécurité Alain Labrie.
Quelqu'un qui nous dit par texto que lui, c'est quand le fou à Pierre Defoix a enfermé un enfant dans le sous-sol de l'immeuble où il y a son condo.
Dans une ancienne tank à l'huile.
Mon Dieu, oui.
Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a sauvé la vie du jeune garçon, Pascal?
Je m'en souviens pas, j'ai déjà su.
Pierre Defoix était sur la route, l'enfant était caché dans le coffre. Ouais. Il a réussi à pogner le genre de wire qui permet au coffre de s'ouvrir. Mm-hmm. Et là, la main de l'enfant est sortie, puis il y avait un véhicule qui était derrière.
Qui l'a vu.
Puis le jeune homme a décidé d'appeler la police. Puis c'est ce jeune homme-là qui a fait en sorte qu'on a retrouvé Pierre Defoix et le jeune enfant qui avait été malheureusement abusé.
Aïe, aïe.
Dans une tank à l'huile.
Ça marque. Hein?
Il serait mort, là.
Denis Lortie, ça sort beaucoup aussi.
La mort de Saddam Hussein?
Oui, c'est sorti.
Moi, je me souviens de la guerre avec l'Irak, là, les missiles qui arrivaient sur l'Irak. La mort, j'ai vu sa pendaison. J'ai pas vu la pendaison totale, mais j'ai vu quand
il montrait une partie.
J'ai vu ce moment-là, mais ça m'a pas marqué tant que ça.
Ouais, moi, oui. Ça fait vraiment partie de mon enfance au primaire, là, tout ce qui est guerre dans ce côté-là du monde.
Le président libyen m'avait marqué.
OK.
Le président libyen, écoute, lui, ils l'ont trouvé dans un genre de tuyau. C'était la population qui l'ont trouvé. Il était caché dans un tuyau. Ils l'ont sorti. Ils l'ont vargé, ils l'ont mis sur le Jeep, ils l'ont vargé, puis après ça, ils l'ont fusillé.
Mais là, tu parles de Kadhafi?
Kadhafi.
Okay. Kadhafi, oui, ouais, ça a mal fini, Kadhafi.
Ouais.
Mais là, c'est, sa propre population là, ouais. qui l'ont exécuté. Là.
De ma vie d'adulte, facilement, haut la main, c'est le 11 septembre.
Mm.
Le 11 septembre 2001.
Oui.
C'est dur de je pense que autant au niveau émotif, puis au niveau de briser bien des perceptions que ça pouvait pas nous arriver. Là. Moi, j'ai eu l'impression cette journée-là de perdre une partie de mon innocence, là, carrément. Là.
Ouais.
Ouais.
Puis il y a deux gros événements. Là. Le 11 septembre, la Radio de Québec a pris une ampleur incroyable cette journée-là.
Ouais.
Puis tu faisais partie de ça aussi. Mm. Puis il y avait 1984, Denis Lortie. Là. À un moment donné, on a dit Québec, la radio, on n'est pas sûr, on va transférer ça à Montréal. Pour finalement redemander à Arthur de reprendre place dans son studio pour couvrir l'événement. Puis Arthur est devenu un monstre en raison de Denis Lortie 1984. Là.
Beaucoup de gens qui parlent du référendum, c'est sûr. Le départ
Lequel?
Des Nordiques.
Il y a eu
95
deux,
sort beaucoup.
Départ des Nordiques, je me souviens
départ
encore
des
de la conférence
Nordiques.
De presse.
Ouais. Puis il y a des plus jeunes. Puis j'ai demandé à certains, vous avez quel âge? Parce que ben, soit c'est arrivé plus tard, l'actualité dans leur vie, où ils étaient coupés de tout ça. Mais c'est vrai que, mettons, la mosquée de Québec, là, ça, c'est pas sorti, mais il y en a beaucoup qui vont dire ça dans quelques années, que ça a été le premier enjeu d'actualité qui a marqué leur jeunesse dans mémoire involontaire, là, de ne pas vouloir se souvenir de ça, mais que ça a marqué quand même où on était puis tout ça. Mais quelqu'un parle de la vidéo de Magnota.
Et mon
quelqu'un
Dieu.
Qui dit « J'aurais pas dû regarder ça, mais moi, ça m'a marqué. »
J'étais avec M. Gaz dans le temps, puis je faisais des remplacements. Et M. Gaz dit « Yann, regarde cette vidéo-là. » Puis là, OK, c'est un auditeur qui nous l'avait envoyé.
Mm-hmm.
Je regarde ça pendant la pause. Pour finalement me rendre compte que c'est pas du gore là, arrangé, c'est vraiment du gore avec de la violence et tout ça. Je l'ai regardé au grand complet, Pascal. Puis M. Gass, je me souviens encore de M. Gass qui m'a regardé. Voyons, tabarnouche, qu'est-ce que c'est toi? Puis là, j'ai raconté une partie de ce que je pouvais raconter. Écoute, de la vidéo de Luca Rocco Magnata.
C'était troublant, là.
Puis le soir, en prenant ma douche... Non, Pascal. Le soir, en prenant ma douche, je me suis souvenu des images. Puis là, je me suis rendu compte que ça m'avait fessé plus que je le pensais.
Mm-hmm.
Et que ça m'avait fessé.
Ouf.
Moi, je peux pas. Je sais que je peux pas. J'ai une limite, là. Puis je peux raconter des affaires. Mais tu sais, on n'est pas imperméable à tout, là, même si on travaille là-dedans. On est imperméable pendant qu'on en parle, mais je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est que là, après, Yannick, t'as ramené à la vérité de ce que tu avais vu.
C'est un vidéo surréaliste parce que si tu le regardes sans contexte, t'es convaincu que c'est framé.
Oui.
Puis même à la limite...
Tu l'as écouté au complet aussi?
Oui, je l'ai écouté. Pour ma job, je suis prêt à faire bien des affaires, puis j'ai pas cette curiosité morbide-là dans la vie de tous les jours. Mais quand on nous a dit que le vidéo était disponible, je me disais, j'ai un micro d'ouvert, ma job, mm-hmm. c'est d'aller le voir. Mm-hmm. Puis moi, ce qui m'avait marqué, c'est que je me disais, mon Dieu, tu le regardes, mettons, au milieu d'un défilement de vidéos TikTok, puis tu as l'impression de voir quelque chose de très mal acté, de très mal édité, puis que c'est quelque chose qui a été fait avec les moyens du bord, alors que c'est véritablement un meurtre et de la torture qu'on voit pendant de longues minutes. Là.
Quelqu'un qui dit l'échange de Patrick Roy? Moi, c'est plus le...
Évidemment, ouais.
C'est plus le fuck you de Patrick Roy à Mario Tremblay qui va m'avoir marqué.
C'est cette séquence-là, elle est dans ma mémoire à jamais. À partir du moment où il lève les bras, là, après le 9e but, si je me souviens bien, il s'en va parler à Ronald Coré. D'ailleurs, depuis ce temps-là, les dirigeants du Canadien s'assoient en haut. Il n'y a plus personne qui s'assoit en bas parce qu'il est passé en avant de Mario Tremblay. Il est allé voir Ronald Coré direct, puis il a dit quelque chose d'équivalent à « Trade me right fucking now », puis il est retourné sur
Il y a des gens qui parlent du mur de Berlin, c'est vrai, c'est quand même historique. Puis il y en a qui l'ont vécu aussi par l'actualité. Carl Giroir dans le Vieux-Québec. C'était épouvantable comment Québec est marqué quand même par des tragédies à travers les dernières années. Hein. L'Halloween 2020 qui a traumatisé une couple de personnes aussi au 88-971-1021. Ça fait comme du bien d'en parler, tout le monde ensemble, mais c'est fascinant comment le cerveau va avoir de la rétention pour des choses qu'on ne souhaite pas, mais qu'on ne peut rien faire contre.
Ouais. Tu sais, je peux faire un lien avec l'actualité, là, ce qui s'est passé à cette soirée d'Halloween-là avec Carl Giroir. Je pense qu'on en parlait hier dans le pit stop, mais les policiers de la ville de Québec, quand ils recherchent un individu, puis il faut le trouver right fucking now, envoient de l'information aux chauffeurs du RTC et aux chauffeurs de taxi. C'est nos yeux, nos oreilles sur la route. Même affaire pour ce qui est des animateurs de radio. Les contacts qu'on aime bien avoir, c'est des gens qui sont sur le terrain tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les camionneurs aussi. C'est une bonne source d'information. Ils voient énormément de choses. Puis le soir de Carl Giroir, moi, j'étais en onde. Et c'est des chauffeurs de taxi, mon chum m'a dit, qui m'écrivait à ce moment-là, qui me disait exactement où se passait l'action.
OK.
Puis là, ben, je disais aux gens, évitez ce secteur-là, évitez ce secteur-là, évitez ce secteur-là. Puis c'est des gens qui écoutaient la radio ce soir-là, qui étaient des agents de sécurité, qui sont arrivés dans un endroit, puis ils ont vu Carl Giroir. Puis à ce moment-là, ils ont appelé les services de police, puis les services de police sont arrivés sur place. Tu sais, l'importance de diffuser l'information rapidement dans ces cas-là. On parle d'un gars qui avait un sabre des mains puis qui était prêt à faire à peu près n'importe quoi pour avoir le plus de... créer le plus de dommages possible.
Les gens qui sont morts n'ont pas réalisé ce qui se passait.
Non. Hier, ben, une dame qui était tuée, est sortie de chez elle. Puis, by the way, il y a un lien avec la radio aussi. C'était la conjointe d'un ancien animateur de radio qui habitait en Haute-Ville de Québec. Elle est allée fumer une cigarette à l'extérieur. Puis, malheureusement, elle a croisé Carl Giroir sur son chemin. Puis, chou! Merci, bonsoir. C'est épouvantable. Mais hier, ce qui est arrivé à Sainte-Marie, ça aurait dû être fait rapidement. Puis je comprends qu'il y a certains enquêteurs qui sont un peu hésitants à libérer l'information, mais le Tiguan a été retrouvé à peu près à 10 minutes de Sainte-Marie. Là.
Tu parles du véhicule qui était recherché hier.
Exact. À 2h45 du matin, Denis. Ça veut dire que le gars se cachait puis que le véhicule était visible. Si on avait libéré l'information plus rapidement, on aurait peut-être pu mettre la main dessus. Ben non, ben il a réussi à se cacher, il a brûlé le véhicule, puis là, ben il doit être de retour à Montréal. Tu sais, les sources policières que j'ai, tu sais, j'étais un peu émotif hier, là. J'ai rajouté des mots que j'aurais pas dû rajouter, mais il y a un enquêteur qui m'a écrit, il y a des patrouilleurs. Finalement, on a réussi à mettre la main sur la vidéo du Tiguan, puis je l'ai diffusé sur Facebook. Puis il y a un enquêteur qui a vu mon message, qui m'a écrit, il m'a dit, tu sais, Yann, des fois on hésite parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va faire le gars s'il écoute la radio pendant qu'on le recherche? Il va-tu se débarrasser de son char? Il va-tu faire une prise d'otage? T'sais, on veut pas avoir ça sur le dos. Mais je me dis, si le gars est capable d'ouvrir le feu en plein jour, ça veut dire qu'il est capable de faire à peu près n'importe quoi. Il faut le trouver rapidement. Puis si vous l'aviez vu hier, bien, vous auriez composé le 911 tout simplement.
Je suis pas meurtrier, là, mais dans des circonstances comme ça, si la première affaire que tu fais pas, c'est brûler ton char, t'as pas écouté assez de films, là.
Ou t'es encore shaké par tout ça?
Non, mais c'est parce que normalement, t'as un plan. Quand tu fais quelque chose comme ça, moi, c'est ce que je constate présentement qui m'inquiète le plus, c'est l'état de désorganisation, d'agressivité. T'engages quelqu'un qui sait pas comment ça marche, qui fait la job n'importe comment. Puis, tu sais, c'est une image qui est très forte, là, puis c'est une image qui a été réelle dans la dernière année. Des enfants de 14 ans avec des mitraillettes dans les mains. Tu sais, le crime organisé, pas super, c'est pas génial, mais c'est comme n'importe quoi. Hein. C'est comme l'itinérance. Quand on le voit pas puis qu'on l'entend pas, ça nous dérange pas mal moins. Et le crime organisé a tellement été tranquille depuis la dernière guerre des motards qu'on se dit, bon, ben tant mieux. Quand ça va comme ça, ça va bien. Mais la nouvelle génération de criminels est épeurante parce que ça semble justement anarchique, n'importe quoi, n'importe comment.
Moi, je me suis demandé si c'était pas un choix là, de la personne qui a tenté de tuer quelqu'un. Il l'a manqué.
Ouais.
Là, il sait qu'il va avoir fort probablement des problèmes par le fait de l'avoir manqué puis par le fait que lui... Ça a été quelqu'un qui a voulu tuer quelqu'un d'un autre clan. Ça va jaser, là. Fait que moi, je me suis posé comme question, peut-être mal faite encore une fois, peut-être que je fais un autre AVC, là. Mais sur le fait que peut-être qu'il voulait se faire pogner par la police, pas en se livrant pour pas avoir l'air de quelqu'un qui se livre, mais pour peut-être être jugé, condamné, puis aller en prison au lieu de se faire abattre.
Je pense que c'est juste des amateurs. C'est des gens qui savent pas comment ça marche.
C'est possible. L'information policière que j'ai, c'est que le Tiguan a suivi Maltais jusqu'à la police. Maltais allait à la polyvalente pour mettre son renvoyer son enfant à l'école. Le Tiguan était derrière Maltais, mais quand même assez éloigné. Quand Maltais est sorti du stationnement de la poly pour descendre la côte, c'est la route Saint-Martin de mémoire, le Tiguan est reparti en arrière, puis rendu dans le bas de la côte Saint-Martin, c'est là que le gars a décidé d'ouvrir le feu. Puis, je sais pas si vous avez vu l'arme, là, mais c'est pas une arme que le Québec... permet, là.
Ouais, c'est
une mitraillette.
Mais oui.
Tu sais, le Québec fait chier constamment les chasseurs, puis en leur disant « Ouais, les armes, là, on va vous enlever ci, ça, ci, ça. »
Ceux mais qui s'enregistrent.
Ça, c'est des armes qui proviennent probablement des États-Unis ou qui ont été fabriquées par une machine 3D. Puis les policiers, ils ont été capables de retracer le bout où il était suivi par le fameux Tiguan. Mais là, le gars, le Hells Angels de l'endroit, a pas collaboré avec les policiers.
Mm-hmm.
Puis il a sacré son camp, puis les policiers savent même pas, à l'heure actuelle, savent même pas où le camion qui a eu des balles, ils savent même pas où il se trouve.
Il commencera pas à donner l'information parce que fort probablement que lui aussi, ça peut s'ajouter là, dans le chef d'accusation ou encore faire en sorte qu'on ait de l'info sur ses chums. Là.
Je suis d'accord avec Fred sur le Twitch qui dit le crime désorganisé est pas mal plus inquiétant que le crime organisé. Puis c'est ce qu'on a, je pense, présentement.
Ça fait quand ça fesse en plein jour comme puis... ça, t'sais...
Tu sais, je sais qu'il y a eu des tragédies, là, mais à un moment donné, il y en a une qui va nous faire vraiment mal collectivement là, parce que c'est tellement n'importe quoi. C'est en plein jour,
ouais.
c'est proche de restaurants, de centres commerciaux, d'écoles et ainsi de suite. Je crains qu'en 2025, on va avoir des choses à dire à un moment donné, des bulletins ouais. de nouvelles qui seront vraiment pas le fun.
C'est à Lanaudière que c'est arrivé hier, Pascal, à peu près dans les mêmes heures, un autre motard qui s'est fait tirer. Il était dans son véhicule. Son bébé était sur le banc.
Oui, un enfant de 4 ans.
Ouais. Ça a été un genre de... faut que je fasse ma mission, puis je regarde pas s'il y a quelqu'un qui pourrait subir des dommages collatéraux.
Pas de code, pas d'honneur, pas de rien.
Il n'y a plus de loi qui existe. Donc, si vous voyez quelque chose dans votre ville, si vous savez quelque chose dans votre ville, parlez avec les autorités policières. Puis, à un moment donné, il va falloir en revenir à cette fameuse loi qu'on avait mise en place pendant la guerre des motards où on interdisait aux motards de mettre des crests. S'ils mettaient leur crest, c'était 10 ans minimum en tôle. Fait que pendant un certain temps, là, ils mettaient plus, justement, leur crest parce qu'ils étaient un peu gênés et ils voulaient pas risquer le 10 ans en tôle.
Si tu
te fais prendre avec une arme à feu, qui est complètement illégale, comme la mitraillette d'hier, c'est un 10 ans minimum, un 15 ans minimum.
Faudrait peut-être recommencer à faire peur au monde un peu, là, leur faire prendre conscience de dans quoi ils s'embarquent, particulièrement les plus jeunes, là, attirés par des sommes d'argent, là.
Bref, salutations à la SQ qui ont beaucoup de travail.
Ouais.
Merci, Denis.
Hey, merci, les amis.
Salut, à demain.
Salut. Gravel.